Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Bonjour, bonjour. Agnès Buzyn. Un mot, si vous le permettez, sur l'information qu'a révélée RTL ce matin. L'école sera obligatoire dès 3 ans, c'est ce que va annoncer le président Macron dans un peu plus d'une heure maintenant. Tous les enfants sont suffisamment éveillés à 3 ans pour être soumis à l'école obligatoire ?
Alors, c'est l'intérêt de l'école obligatoire. Aujourd'hui, d'abord, la très grande majorité des enfants vont en maternelle dès 3 ans. Je crois que c'est 97%. Donc, ça concerne des enfants qui sont un peu éloignés du système scolaire. Et l'objectif, j'imagine, parce que je n'ai pas encore entendu les annonces officielles, c'est probablement d'aider à leur éveil en les stimulant par l'école maternelle. Et ça permet de réduire les inégalités sociales ou les inégalités vis-à-vis du langage, puisqu'on sait qu'un certain nombre d'enfants vivent dans un milieu qui ne favorise pas l'acquisition des compétences psychosociales et du langage. Et d'ailleurs, dans le plan de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes sur lequel nous travaillons actuellement, il y a cet enjeu de donner à tous les enfants très tôt les mêmes chances d'acquérir ces compétences. Et ça passe par l'accueil en collectivité, que ce soit la crèche ou une maternelle précoce.
Et puis ça permettra d'avoir un suivi plus tôt pour tous les enfants, puisqu'on parle de prévention. Hier, vous avez présenté un plan, 25 mesures concrètes, un plan touche-à-tout, on va dire tous azimuts, pour les petits, pour les grands. Tous les ministres, ou presque avant vous, Agnès Buzyn, ont présenté un plan de prévention santé. Quelle différence ?
Alors, c'est un plan qu'on appelle un plan de santé publique, qui vise vraiment à changer de paradigme. Pour une fois, c'est vrai que la prévention dans notre pays fait défaut, à la fois en termes de financement, en termes de présence dans les parcours de santé des personnes, c'est-à-dire que les professionnels de santé sont assez peu formés à la prévention, les médecins parlent assez peu de prévention à leur patientèle, et notre pays souffre de cela avec beaucoup de maladies chroniques et une mortalité précoce avant 65 ans qui est très élevée par rapport aux autres pays.
Il y aura une formation prévention dans les études de médecine ?
Oui, par le service sanitaire. En fait, le service sanitaire que nous avons mis en place et qui va débuter à la rentrée 2018 va envoyer 48 000 étudiants en santé, qu'ils soient pharmaciens, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, pendant 3 mois, dans des lieux qui peuvent être l'école ou des EHPAD, pour faire de la promotion de la santé, de l'éducation à la santé, que ce soit alimentation, santé sexuelle pour les jeunes. Et ils vont de ce fait se former à la prévention, ils vont intégrer les grands messages de prévention dès leurs études, ça fera partie de leur cursus.
Alors, on va prendre, j'ai dit 25 mesures, c'est beaucoup, on va en prendre quelques-unes. Généraliser dès 2019 la vaccination anti-grippe en pharmacie. Agnès Buzyn, on se fera vacciner chez le pharmacien. Tous les Français sont concernés, parce que les expériences ne concernaient jusque-là que les personnes à risque, on va dire, les plus de 65 ans. Tous les Français,
à partir du moment où ça n'est pas ce qu'on appelle la primo-vaccination, c'est-à-dire la première injection de vaccin anti-grippe qui doit se faire chez un médecin,
là,
mais
ça
ensuite,
ça ne change pas.
Mais c'est simplement pour vérifier qu'il n'y a pas d'allergie, et ensuite, si on tolère bien le vaccin antigrippal, la vaccination pourra se faire pour tout le monde, chez le pharmacien, c'est-à-dire qu'on ira acheter son vaccin, et on pourra demander à son pharmacien, si on le souhaite, mais ça peut être une infirmière, évidemment, les infirmières le font déjà, ou un médecin. Ça sera au choix de la personne. Et nous avons saisi la Haute Autorité de Santé pour savoir si cette extension vaccinale pouvait se faire chez les infirmières qui, pour l'instant, ne vaccinent que les personnes de plus de 65 ans ou atteintes de maladies chroniques, et par les sages-femmes également, qui peuvent être amenées à rencontrer des femmes
enceintes.
Donc
vous attendez l'avis de l'autorité
pour les infirmières et pour les sages-femmes, et aujourd'hui pour les pharmaciens, ce sera un déploiement.
Ça se fera dès 2019.
Donc les pharmaciens sont formés à la vaccination, c'était la façon dont l'expérimentation s'est mise en place et qui a montré que après une formation, les pharmaciens étaient à la fois très heureux de faire ce geste médical, et que pour la patientèle, ça permet d'éviter de reprendre un rendez-vous, et on voit bien que cette prise de rendez-vous pouvait amener certaines personnes à acheter le vaccin, mais à ne jamais le faire. Donc le fait de pouvoir le faire dès qu'on l'achète va permettre à beaucoup plus de personnes d'être vaccinées, notamment dans les lieux où l'accès à un médecin peut être compliqué, notamment dans les zones rurales.
Ouais, mais je les entendais hier, les médecins, dès RTL Midi hier, qui disaient chacun son métier. Aux infirmières, oui. Alors là, oui. Et aux médecins, surtout, on peut permettre de vacciner, mais les pharmaciens, ils vendent les médicaments. Ils doivent en rester là.
Mais ils sont en train de changer leur pratique.
Non, mais pour, ça, c'est les médecins qui disaient.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous leur dites ce matin?
D'abord, les pharmaciens sont une profession médicale. Ils sont en train de changer leur pratique pour faire plus de santé publique. Mmh. Et je crois que là, c'est un enjeu de santé publique de faire en sorte que la couverture vaccinale pour la grippe augmente, ce qui évitera à nos urgences d'être engorgées chaque hiver comme elles le sont. On voit tous les reportages sur les urgences qui débordent en décembre, janvier, février. Ouais, si nous nous vaccinions tous contre la grippe, cela éviterait déjà ces images.
Autre gros dossier, Agnès Buzyn, la prévention de l'alcoolisme. Il y aura un pictogramme plus important, plus gros, sur toutes les bouteilles d'alcool, de prévention de l'alcool pour les femmes enceintes?
Absolument. Aujourd'hui, ce pictogramme existe, je crois que personne ne l'a jamais remarqué. Donc c'est zéro alcool pendant la grossesse. Il faut savoir que quand on boit de l'alcool pendant la grossesse, c'est comme si on mettait de l'alcool dans le biberon d'un nouveau-né. Donc l'enfant va être immergé d'alcool puisque cela passe dans le sang du bébé.
Ça a été dur d'imposer ça aux alcooliers?
Non, ça a été une négociation qui s'est faite dans le courant de l'année. la négociation continue sur la taille du logo, mais ils sont d'accord pour l'agrandir. Mmh. Et moi, mon message, c'est zéro alcool pendant la grossesse. C'est ce que les femmes enceintes doivent comprendre. À chaque fois qu'elles boivent un verre d'alcool, c'est comme si elles mettaient de l'alcool dans le biberon de leur nouveau-né.
Il est de notoriété publique, Agnès Buzyn, que vous auriez aimé durcir le slogan « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé ». L'alcool nuit à la santé. C'est pas plus pertinent.
Alors ça, c'est une recommandation.
C'est pas plus approprié.
C'est une recommandation du Haut Conseil de Santé Publique. Donc l'alcool nuit à la santé, c'est leur recommandation.
Après, c'est pas la vôtre ? Ce n'est pas votre conviction? Ce devrait être ça, ce slogan?
En fait, je pense qu'il faut informer les Français, c'est ce qui compte le plus, sur le fait que l'alcool nuit à la santé de façon proportionnelle à la dose et que chacun doit être en capacité de choisir.
Vous prenez des tas de précautions, Agnès Buzyn. Est-ce que vous ne vous reniez pas, vous qui avez été en pointe et qui avez des convictions très forte en termes d'addictologie et de prévention de l'alcoolisme
alors,
en France.
Peut-être pour vous expliquer...
L'alcool nuit à la santé, est-ce que ça n'est pas plus approprié que l'abus d'alcool nuit à la santé?
En fait, cette phrase-là peut laisser penser qu'on est pour une action de prohibition, c'est-à-dire qu'on veut pas d'alcool du tout. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce que je propose et ce que j'ai toujours proposé, c'est que l'information soit suffisamment claire pour que les gens comprennent que la nocivité de l'alcool, elle est proportionnelle à la dose. Donc, dès qu'on commence à boire de l'alcool, on a des effets nocifs et plus on en boit, plus c'est nocif. C'est ça l'information que les Français doivent connaître.
Deuxième cause de mortalité évitable en France, 49 000 morts, 15 000 morts par cancer. Tous ceux qui comptent sur vous pour lutter contre le lobby de l'alcool ont raison.
Ils ont raison. C'est pas contre le lobby. C'est,
il n'y a pas de lobby?
Il y a un lobby, mais ma bataille n'est pas de lutter contre les lobbies. Ma bataille, c'est celle de l'information.
Elle passe par la lutte contre les lobbies. Votre action.
De temps en temps, mais elle passe surtout par une information, et je maintiendrai les messages d'information de santé publique que j'ai toujours donnés sur la nocivité proportionnelle.
Agnès Buzyn, Francine est une des innombrables auditrices qui témoignent de son épuisement à l'hôpital. C'était ce matin à 5h50.
Qu'elles viennent nous voir dans les hôpitaux, mais qu'elles viennent pas en passage pendant une heure ou deux. Qu'elles s'immergent dans les services de nuit, sur les urgences, sur de l'accueil, sur des femmes enceintes. Mais qu'elles passent 3, 4, 5, voire 8 jours avec nous. Et puis peut-être qu'elles comprendront mieux nos problèmes.
Vous ne comprenez pas les problèmes des infirmières et des hôpitaux qui craquent?
Évidemment, je les comprends parfaitement. J'ai vécu suffisamment de nuits de garde dans mon service en soins intensifs pour savoir la difficulté qu'on a à être soignant. J'ai fait beaucoup de garde dans les urgences quand j'étais jeune et j'avais encore une activité hospitalière il y a un an. Donc je sais très bien ce que vit l'hôpital et la dégradation progressive depuis 15 ans maintenant, 15 ans, du service public hospitalier notamment.
Qu'est-ce que vous lui dites à Francine?
Non, il y a eu des réformes successives à l'hôpital qui ont eu des effets bénéfiques et aussi beaucoup d'effets néfastes. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de transformer le système de santé pour que l'hôpital ne soit pas en première ligne et tout seul face aux maux de la société, parce que c'est ça aujourd'hui, les urgences reçoivent tout le monde, beaucoup de patients qui n'auraient pas à aller aux urgences, qui pourraient être soignés en ville. Donc je me dois de restructurer la médecine de ville pour qu'elle accueille mieux une grande majorité des patients qui n'ont rien à faire à l'hôpital.
Mais là, il n'y a pas des mesures d'urgence à prendre, à court-termiste, parce que c'est un plan ambitieux que vous lancez sur la
médecine. Absolument, ça nécessite des restructurations à la main des territoires aujourd'hui, parce que dans certains secteurs, les activités sont nettement en baisse, on fait plus d'ambulatoires, et donc il faut probablement qu'il y ait moins de lits dans certains secteurs où la chirurgie ambulatoire s'est nettement développée, on n'a plus besoin d'hospitaliser les gens. Je crois que toute personne aujourd'hui qui passe par la chirurgie sait...
Donc il va y avoir des redéploiements.
Il faut des redéploiements, c'est indispensable.
Vous dites qu'il y a dans certains services hospitaliers moins d'activité.
Beaucoup moins, d'ailleurs c'est prouvé cette année, il y a eu une baisse de l'activité de tous les hôpitaux d'environ 2%. Donc il y a moins d'activité à l'hôpital, moins d'hospitalisation de nuit.
Vous n'avez pas une vision technocratique en disant ça. Vous dites on va fermer... éventuellement, ou baisser l'activité de certains services.
Il faut qu'on puisse baisser l'activité de certains services pour pouvoir augmenter l'activité, par exemple, en aval, juste après les urgences, pour qu'il y ait plus de lits après les urgences. Je vous donne un autre exemple, l'hépatite C. L'hépatite C était une pathologie qui était prise en charge dans des services d'hépatologie. Il y a maintenant un médicament qui guérit les malades en 6 semaines par la bouche. Les services d'hépatologie se sont vidés des malades. Nous n'avons plus besoin d'autant de lits en hépatologie. Nous pouvons déployer ces lits sur d'autres activités. C'est le travail qui est en train d'être fait dans tous les hôpitaux de France aujourd'hui.
Certains traitements seront disponibles en pharmacie, non plus seulement à l'hôpital.
Absolument.
Contre cette hépatite C. Merci beaucoup Agnès Buzyn d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Et l'ensemble de ces informations sont à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à vous deux.